Merci Maxime Debs, on vous retrouve tout à l'heure à minuit pour d'autres infos.
La radio.
Je suis née à Paris.
En Bretagne.
Nous habitions une ferme sur 25 hectares.
J'ai commencé très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde.
Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
Amis du soir, bonsoir. Je vous propose ce soir de rencontrer un homme qui a su très jeune prendre sa destinée en main pour vivre une aventure extraordinaire et trouver ce qu'il appelle toujours son paradis blanc. Tété Michel Pomassy est né au Togo en 1941 dans une famille traditionnelle africaine. À 16 ans, après avoir échappé à un accident dû au python, son père le destine à servir le culte de ce serpent. Effrayé par cette perspective, il tombe par hasard sur un livre sur le Groenland. Un livre qui va changer sa vie. À partir de ce moment-là, le jeune Togolais n'aura qu'une seule idée en tête. Rejoindre cette contrée lointaine et se fondre dans les terres glacées. Il mettra 8 ans pour atteindre son objectif et réaliser son rêve, vivre au milieu des Esquimaux. Ainsi, Tété Michel Pomassy est devenu dans l'histoire et les manuels scolaires l'Africain du Groenland, titre également de son livre publié en 1981 que l'éditrice Valérie Dumège des éditions Artaud a eu la très belle idée de rééditer et qui nous donne l'occasion d'écouter ce conteur fantastique. Partir avec Tété Michel Pomassy, c'est vivre une aventure unique au monde. Le cinéma n'a jamais pensé à faire un film de votre vie, de votre histoire.
Il y a eu un premier projet aux États-Unis, mais qui n'a pas abouti. Mais la BBC a fait un documentaire sur moi qui s'appelle L'Esquimau Noir, hein, The African Eskimo. Et puis, en ce moment, il y a une productrice belge qui a acheté les droits
et
ils sont en train d'écrire le scénario.
Ah oui, parce que je me disais, avec un destin comme le vôtre, un destin incroyable, ce serait dommage.
Bon, incroyable,
c'est... Oh ben si, quand même. Il faut tout remettre dans son contexte, dans son époque aussi.
Oui. Enfin, mais moi, personnellement, c'est...
c'est quoi?
Je voulais fuir les serpents, j'ai réussi.
C'est un voyage vers l'altérité, votre vie.
Ah ben oui, l'altérité, absolument, oui. On peut dire que c'est un voyage vers l'autre, mais qui ne pouvait pas se faire sans m'oublier complètement, sans me fuir à moi, sans fuir mes traditions, c'est-à-dire que partir et dire que oh, c'est juste pour une balade et puis après on revient, on a son appartement, on a même sa résidence secondaire, on a sa voiture, on a peut-être son bateau. Et oui, mais tout ça fait que on part pas dans ces conditions-là. C'est comme on visite un zoo. On va voir les autres et puis on revient paisiblement chez soi. Alors que quand on part, on renonce à tout. Et me retrouvant dans cette autre culture et qui m'a si bien accueilli, mais j'avais l'impression même d'être revenu bébé auprès de ma mère. Puisque j'avais à apprendre une autre langue, j'avais à me faire encore plus petit et que c'était les enfants qui m'apprenaient à parler cette nouvelle langue-là. Oui, c'est ça, enfin, c'est même une renaissance, enfin, renaître. Ouais. On devrait m'appeler René plutôt.
Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter.
Écoutez l'histoire de Tété Michel Pomassy. Une histoire extraordinaire réalisée et habillée par Céline Hilla, préparée par Marie-Claire Matout, mixée par Patrick Henry, et c'est Monsieur Djoubaka qui a signé la programmation musicale.
Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.
Tété Michel Pomassy, d'où venez-vous?
Tout simplement, je viens du Togo. Et quand on parle d'un pays d'Afrique, la plupart des gens se réfèrent immédiatement à la capitale. Moi, évidemment, j'ai grandi à Lomé, mais Je viens d'une toute petite ville, un bourg, peut-on l'appeler, qui s'appelle Anejo. Anejo est à 50 kilomètres de Lomé, vers la frontière, on disait la frontière dahoméenne, c'était le Dahomé, mais maintenant vers la frontière béninoise. Mais là, disons, c'est une ville qui a été construite au XVIIe siècle, et par les colons, forcément, et on voit encore qu'elle est surtout caractérisée par des bâtisses coloniales ou du temps des Portugais. Mais là, vous n'y êtes toujours pas. Vous quittez Anejo, vous vous enfoncez dans ce qu'on appelle l'arrière-pays, la brousse. Pas véritablement la brousse, parce que dans mon enfance, c'était des champs de maïs, de manioc, d'igname, de patates douces, tout ce qui servait à nous nourrir, et à nourrir nos dieux, à nourrir nos divinités. À peu près 10 kilomètres plus loin, vous arrivez là, et vous trouvez un village, un gros bourg, qui s'appelle Tokpo. Tokpo est le village de ma mère, et à 3 kilomètres plus loin, Seidro Kanji, dans ma langue, Kanji veut dire village, Seidro Kanji, c'est le village de Seidro, et qui est mon village paternel. Et c'est là où j'ai grandi. Alors, c'est une communauté très unis, si unis que même le mot demi-frère n'existe pas chez nous. Nous sommes des frères et sœurs, point final. Mais il faut y vivre, y naître, y grandir pour connaître toutes ces nuances-là.
Vous êtes né en 1941, c'est ça?
Oui, 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 en 1941, et je dirais même un siècle après la fin de l'esclavage. Et ça me marque énormément. Parce que si l'esclavage avait encore continué, et même après l'abolition de l'esclavage, il y avait l'esclavage sauvage à continuer. Des bateaux européens allaient toujours charger des bois d'ébène, c'est-à-dire des nègres. Bon. Alors, même Napoléon, votre grand Napoléon, a continué à être négrier, à exporter des Noirs d'Afrique vers la Martinique, après l'abolition. Donc, moi, nous avons eu, mes frères, mes sœurs et moi, on a eu une très grande chance. Je suis né en 1941. Mais si ça avait été un siècle plus tôt, 1841, je ne sais pas où je serais. Mon nom n'existerait peut-être même pas. Quand je pense qu'il y a eu des Noirs qui portent des noms comme Cassius Clay, Martin Luther King, etc., et qui ont oublié jusqu'à leur patrimoine, je veux dire jusqu'à leurs racines, ça a été un crime abominable, l'esclavage.
Michel, vous avez été élevé par plusieurs femmes, par votre père, oui. Par vos grands frères aussi, à qui vous devez énormément de respect et d'obéissance, si
absolument,
j'ai bien compris là.
Absolument. Pour que cette famille fonctionne bien, il faut vivre selon la tradition. Il n'est jamais permis entre frères et sœurs de s'appeler directement par le nom. On ajoute toujours un titre. Fofo veut dire respectable grand frère. Alors, si je dois m'appeler un autre frère qui s'appelle Kofi, je dois dire Fofo Kofi. Pourquoi? Parce que il est mon grand frère, peut-être d'une semaine ou de 2 mois ou de 6 mois, s'il est né d'une autre mère. Et ce respect, et ce n'est pas entre garçons, c'est entre filles aussi.
Il y a même pour les jumeaux aussi.
Ah,
ça m'a beaucoup plu, ça.
Alors là, c'est là où nos traditions ont été, comment dirais-je, ont réfléchi vraiment finement. De 2 jumeaux, il y a toujours un aîné.
Oui.
Et l'aîné, c'est celui qui naît en dernier. Parce que dans le ventre, c'est le grand frère qui a dit au petit frère, va voir si le monde vaut la peine d'être vécu.
C'est incroyable.
Et le grand frère, qui est toujours dans le ventre de sa mère, qui entend les cris de son frère, interprète les cris et dit, bon d'accord, bon, il m'appelle, j'y vais. Ou alors, je viens mort-né, ou etc. Ce respect dû à l'âge est très commun dans notre société.
Vous avez été aussi élevé selon certaines croyances. Vous faites partie de l'ethnie des Mina, c'est
oui,
ça?
Oui, Mina qui est une des ethnies du Sud, mais qui n'est pas à proprement parler différente des autres ethnies. Vous prenez n'importe quelle ethnie du Togo, le même respect existe, les mêmes interdictions existent, les mêmes, disons pratiquement les mêmes coutumes. Et ce qui est quand même assez remarquable, c'est que tout en ayant différentes divinités et différentes coutumes, il n'y a pas de guerre entre nous. Il n'y a pas de guerre entre nous. Je vous le disais, les femmes de mon père viennent de croyances différentes. Mais elles vivent ensemble, en communauté. Et des fois, nos mères accompagnent une de leurs co-épouses pour aller dans son village ou en cas de décès et aider à préparer à manger. Et à ce moment-là, suivent les coutumes qui se passent là-bas. Et puis, comment peut-on ne pas s'entendre? Un tel a pour divinité les dieux de la forêt. Un autre a pour divinité la foudre. Un autre, c'est l'océan, c'est la mer. Un autre, c'est sapate qui veut dire la terre-mer. Eh bien, tout ça se complète. L'eau, le feu, l'air, tout ça se complète. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et aucune de ces croyances ne dit « je suis supérieur à toi » ou « la mienne est supérieure à toi ». C'est même impensable. Chez moi, il y a un mot qui importe peut-être plus que tout le reste. C'est dans ma langue Mina, le mot « amé ».« Amé » veut dire « l'être humain ». Ça me fait penser à « âme ».
Oui, bien sûr.
« Amé ». Bon. Et j'entends souvent dire, quand on nous parle de ces respectables religions révélées, on nous dit être bon musulman ou être bon chrétien. Mais je n'entends jamais dire être bon amé ou être bon inouk ou inuit, c'est-à-dire l'homme qui est à la source de tout. On ne peut pas être un musulman ni un chrétien si avant tout ça on n'est pas un homme. C'est-à-dire être humain avec les sentiments humains, avec les préoccupations humaines, cela vient avant n'importe quelle religion, puisque c'est nous qui inventons les religions. Ce ne sont pas les religions qui nous inventent. Et on mélange tout ça, on parle du Groenland, on parle de l'Afrique. Il faut voir que, par exemple, au Groenland, on a traduit la Bible en disant « Donnez-nous aujourd'hui notre phoque quotidien ». C'est insulter les Inuits qui, pendant 10 000 ans, ont toujours chassé le phoque sans attendre que quelqu'un vienne leur donner le phoque. Dans ma culture à moi, c'est idiot de dire « Donnez-nous notre pain quotidien ». C'est absurde, puisque c'est nous qui nourrissons nos dieux. C'est nous par des sacrifices, c'est nous qui nourrissons nos divinités. Quand mon grand-père, après la récolte, offre les prémices aux divinités, eh bien, il donne à manger à ces divinités-là. Et nous attendons, nous, que les dieux nous favorisent dans telle ou telle démarche, si nous le méritons. Dans mon village, la plus grande ignominie que puisse encourir un homme, c'est ne pas être capable de nourrir son Dieu, c'est-à-dire de ne pas être capable de lui offrir les prémices de sa récolte. Mais quand on est capable de nourrir son Dieu, on est capable de se nourrir soi-même et de nourrir sa famille, puisqu'on cultive un champ, etc. Et ces jours-ci, ce qui me désespère, c'est que nos champs de maïs, de manioc, de patates douces, d'igname, de tout ce qui plaît à nos divinités, sont devenus des champs de café, de cacao, d'ananas, de mangue, tout ce dont le ventre, le gosier du blanc est friand. Nos dieux ne mangent pas ce genre de choses. Et que se passe-t-il? Ah, les Africains meurent de faim. Ben oui. Et quand on achète ces barres de chocolat, il faut savoir que c'est 1000 enfants africains qui crèvent de faim. Donc l'esclavage ne s'est jamais terminé. Au lieu de nous envoyer dans les Antilles pour produire de canne à sucre, on nous le fait faire chez nous, en réservant nos terres les plus fertiles à tout ce que le blanc aime. Allez voir en Afrique du Sud, l'apartheid s'est terminé. Mais qu'est-ce qui reste? Mais tout est toujours entre les mains des blancs. Miva Midjo, coup Marie-Pierre Planchon.
Sur France Inter.
Pour en revenir à vous, Tété Michel Kpomassi, vous passez votre première vie, on va dire, au bord d'une cocoterie. Et l'une de vos activités était de monter, justement, j'essaye de vous imaginer, hein, jeune homme, en train d'aller chercher des fibres, c'est ça?
Pour en faire des paillassons. Des noix de coco, qu'on casse, et puis on enlevait les fibres, on faisait des paillassons. Et les paillassons, et ce sont, bah, heureusement qu'il y avait des blancs, hein, ce sont les blancs qui le faisaient. Et j'en vendais beaucoup. J'en vendais beaucoup. On appréciait mes paillassons. Et aussi, c'est comme ça que j'achetais les livres que je lisais. Et puis,
Oui, parce que vous aviez déjà très tôt le goût de la lecture.
Mais quel Africain n'a pas le goût de la lecture? On grandit avec des contes qu'on allait le soir écouter auprès de nos mères, de nos grands-pères, etc. Mais quand on est soi-même capable de lire, eh bien, quelle joie, on pouvait en lire autant qu'on voulait. Donc, la lecture est quand même une passion pour tout Africain.
Et un matin, donc, vous devez aller une nouvelle fois très tôt, parce que hein, vous partez au Chant du Coq. Vous devez aller donc faire une nouvelle cueillette, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et vous avez un pressentiment. Vous dites, j'ai pas envie d'y aller.
Oui, c'est vrai que on se levait tôt, très tôt, au Chant du Coq. Bon, il faisait froid. On n'avait que nos pagnes, mais dès qu'on sortait aller dehors, on allait puiser dans le puits qui était dans la cour. Donc on se débarbouille, il faut se laver et on frissonne quand cette eau nous touche. Alors se laver le matin d'aussi bonne heure, c'était désagréable. Bon, donc il fallait partir tôt parce que on profitait de la fraîcheur matinale. Mais il y avait des jours où on n'avait vraiment pas envie de le faire.
Et ce jour-là, en fait, vous vous retrouvez en haut du cocotier, ce jour où vous avez ce pressentiment et vous l'écrivez dans votre livre « L'Africain du Groenland », réédition parue chez Artaud. Et vous dites hein, « J'ai aperçu le cou vert et luisant d'un serpent qui agitait furieusement sa tête couverte de craquelures, tandis que sa langue fine et fourchue sortait et rentrait nerveusement. »
Oui, oui.
Une rencontre qui va changer votre vie.
Ah oui, complètement. Il faut savoir que... on était habitué quand même à voir des serpents. C'est mon propre père qui a défriché le terrain sur lequel il a construit son patio. Et comme les gens qui venaient des villages comme lui, n'avaient que la brousse à débroussailler pour avoir du terrain. Donc on était à la lisière du domaine des reptiles. Et des serpents entraient. Les clôtures, c'était des branches de cocotiers. Donc, les serpents peuvent se faufiler entre. Un serpent, on ne le voit jamais. Il fait pas de bruit. Il est. Et puis, tout d'un coup, vous le voyez. Alors, donc, il y a toujours une énorme frayeur. Mais cette frayeur, le serpent, quand moi, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Le temps de revenir sur le cocotier, il cherchait. Alors, j'ai pu dépasser les branches, arriver jusqu'au tronc, mais il glissait vers moi, donc plus de peur. Je l'ai chassé avec ma main parce que sa langue allait me toucher le nez. Donc, je lui ai donné un coup et il est tombé jusqu'au sol. Ouf! Alors, mais je tremblais, j'étais écorché, je poussais des cris. Donc mes frères, qui se sont accourus quand j'ai commencé à crier. Et puis il me dit, Tété, saute, saute. Mais pourquoi je dois sauter ça? Je regarde. Et le serpent remonte, tout tranquillement pour remonter sur l'arbre. On dit, saute, 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 nous sommes là, saute. Et je me suis jeté. Un grand bruit et puis... Je me suis réveillé dans la case de mon père. Et là aussi, je suis gré à mon père. Si mon père avait été chrétien, si mon père avait été musulman, si mon père n'était pas lui-même un guérisseur, et entre parenthèses, j'en veux aussi aux Blancs qui, arrivés en Afrique, ont appelé tous nos guérisseurs des charlatans. Et c'est le terme qui est dans notre langue pour dire guérisseur chez charlatan. Quand moi je suis né, il n'y avait pas une seule pharmacie à Lomé, pas une seule. Et c'est mon père avec des plantes qui a fait vivre ses 26 enfants. Et je suis là aujourd'hui, je ne prenais ni d'aspo, ni de quinine, ni d'aspirine. Mon père a dit, au bout du troisième jour, et comme mon état empirait, et que c'était toujours dans mes rêves, c'était les serpents qui revenaient. Elle a dit, on l'emmène chez la prêtresse du culte de serpents.
Dans la forêt sacrée.
Dans la forêt sacrée. Et c'est là...
Quelle rencontre !
Où j'ai vu des serpents.
D'abord la prêtresse.
Ah oui.
La prêtresse du culte des serpents.
Cette femme imposante déjà par... il faut savoir que pour devenir prêtre ou prêtresse du culte des serpents ou de n'importe quelle divinité, on prend la brousse, comme on dit ce nom, on prend la brousse, c'est-à-dire on est admis pendant 7 ans dans un couvent de brousse, où on change de langue. Ma propre mère était une vaudoucie. Vaudoucie veut dire adepte. D'un vaudou, ça peut être Révieso, la foudre, ça peut être la terre, etc. Et pendant 7 ans, le prêtre ou la prêtresse a des instructeurs dans la brousse pour vénérer cette divinité et devenir l'officiant ou l'officiante de cette divinité. Donc, ce sont des gens, et beaucoup d'hommes togolais, aiment épouser des prêtresses. Déjà, elles sont d'une rigueur intellectuelle, d'une rigueur morale qu'on ne connaît pas chez d'autres femmes. Et puis, pendant les 7 années, elles apprennent une autre langue, qui est la langue du vaudou. Moi, j'ai grandi auprès de ma mère en écoutant 2 langues. Quand elle allait au marché, en tant que vaudoussi, c'est-à-dire, elle continuait de porter ses pagnes. Il y a des pagnes distinctives aussi pour les vaudoussis. Elle continuait de porter ses pagnes, mais après son mariage, 3 ans après son mariage, elle peut quitter ses pagnes et reprendre des pagnes normaux. Mais avant d'enlever ses pagnes, elle continue à parler en vaudou. Et il faut, au marché, quand j'étais à côté de ma mère, il fallait un interprète pour dire aux autres ce qu'elle veut dire. Et moi, je servais d'interprète à ma mère. Puisque dans la cour de mon père, nous, on parlait la langue normale, mais ma mère s'exprimait en vaudou.
Donc quand vous rencontrez cette prêtresse de la forêt sacrée, vous comprenez ce qu'elle dit ?
Oui, mais attention, chaque vaudou n'a pas la même langue. Mais bon, l'Afrique est quand même assez mystique et très croyante, dans ses traditions,
En tout cas, cette prêtresse trouve la cause de cet accident.
Oui, non, elle pour elle, le serpent ne pouvait pas me poursuivre si je n'avais pas commis un tort à l'égard des serpents. Parce que le serpent se vengeait de quelque chose. De quoi ? Eh bien, elle était en même temps une psychiatre. Parce que il fallait que je dise quel comportement j'ai eu à l'égard des serpents, mais pas de n'importe quel serpent, des pitons. À l'égard des pitons chaque fois que j'en ai rencontré. Dans ma tradition, quand on trouve un piton mort dans la nature, eh bien, on ne le dépasse pas comme ça, comme on dépasserait un caillou au bord de la rue. Non ! On creuse une tombe, on va chercher des djematpins. Djematpins, ce sont les feuilles d'un arbre spécifique, dont on tapisse le trou et on l'enterre. Une fois le serpent enterré, vite, on va dans la forêt sacrée pour prendre un bain de purification. Parce que le fait d'avoir vu le serpent mort nous souille. Il faut se purifier. Et c'est la prêtresse qui donne ce bain. Avec des incantations pour... Et tout ça, c'est pour ne pas faire de mal au piton. Mais allez savoir pourquoi.
Donc vous aviez vu... Un piton mort,
Oui.
Vous étiez souillé.
Oui, mais j'étais souillé. Quand on devant l'hôtel Le Golf à Lomé, les Français achetaient des sacs à main pour leurs femmes en piton ou des ceintures en piton ou même un piton entier dont on écorche la peau et puis ils ramenaient ça en cadeau, enfin, ou en souvenir. Alors, d'après la prêtresse, eh ben, plusieurs fois, j'étais déjà souillé par ce... À partir de ce moment-là, ce n'est pas toujours un piton qui se venge. À ce moment-là, c'est n'importe quel serpent. Puisque dans ma langue, reptile veut dire les chéris de la terre. Ce sont les seuls animaux qui n'ont pas besoin de pieds pour se déplacer, donc, et qui ne font pas souffrir la terre, qui ne piétinent pas la terre comme nous le faisons. Donc, eux sont des enfants chéris de la terre et on leur doit du respect.
Bonjour terre, écoute, je me perds dans la danse des mots, le sens des choses. Je trace une route qui se casse sans doute, alors j'en prends d'autres. Je change de pôle, mais là les pieds usés, je pose mes pensées et te contemple. Car tes yeux sont les miens et mes yeux sont les tiens. Quand je sens que cœur qui disent la vie sur des voies creuses qui ne parviennent nulle part. Comme ils oublient d'où ils viennent, c'est dans le vide qu'ils avancent.
Avant de quitter le Togo, son pays natal, et entreprendre une odyssée improbable vers le Groenland, Tété Michel Pomassy vit en 1957, alors qu'il n'a que 16 ans, une expérience qui va le marquer à jamais. Après avoir survécu un accident dû à un serpent, alors qu'il cueillait des noix de coco, il est emmené par son père dans la forêt sacrée pour être soigné par la prêtresse du culte du serpent. Le Python étant le dieu des ancêtres dans la tradition Mina. Le jeune Tété Michel va être ainsi une nouvelle fois confronté à ce qu'il redoute tant.
Ah oui.
Quelle épreuve.
Oui, ah oui, bon j'avais...
Vous avez 16 ans à l'époque.
Oui, 15-16 ans. Et il fallait tenir un python, ne pas montrer de signes de nervosité ni d'agressivité, le porter... et puis même... Un journaliste français m'a dit la dernière fois qu'il est allé au Bénin. Ben oui, on lui a mis un piton autour du cou en signe d'accueil. Vous allez en Polynésie, on vous met une couronne de fleurs.
Bon, chacun son truc.
Chacun son truc, pourquoi pas un piton. Alors là, il fallait quand même que je porte le piton. Mais non, c'est la prêtresse qui a dit « ferme les yeux ». J'ai fermé les yeux. Penche-toi sur l'eau, penche la tête, et puis j'ai senti le corps froid. Lève-toi, je me suis levé, et puis il y avait le serpent qui entourait ma cuisse, jusqu'à ce qu'il soit parti. Donc, comme il n'a pas fait de contraction agressive, etc., et il acceptait mon tort. Mais pour que le tort soit lavé, il fallait que je prenne le bain de purification. Et c'est ça, et c'est ce bain qu'en pleine nuit, on m'a fait prendre.
Et à la suite de cette guérison, on vous dit que vous allez être consacré à ce dieu du serpent. Vous allez, à votre tour, peut-être être initié et devenir prêtre du culte du serpent.
Oui, mais disons que guérison, je vous assure que quand on est arrivé là et que j'ai vu, il n'y avait pas que le piton qu'on m'a fait porter, mais il y en avait d'autres dans cette case de cérémonie. Ils étaient chez eux. Quand moi j'ai vu ça, j'ai failli dire à mon père, j'ai dit « Papa, je ne suis plus malade, on rentre, on retourne à la maison. » Mais je ne pouvais pas, parce que c'était terrifiant.
C'était une initiation.
Absolument. Et puis aussi, le fait, par exemple, enfin, je ne sais pas, mais est-ce que c'est passé dans ma tête jusqu'à présent? Non, j'ai toujours la même méfiance à l'égard des serpents. Et après le bain, on nous a fait coucher, parce qu'il était tard dans la nuit. Et le lendemain matin, la prêtresse qui dit à mon père, ben, ton fils, il est, oui, il va guérir, la fièvre va tomber. Et puis, il me paraît sympathique et j'aimerais que tu nous le confies pour quelques années pour qu'il devienne un prêtre du culte des serpents. Mon père a dit oui. Mais moi, dans ma culture, on ne dit jamais non à son père. Hein. De toute façon, on ne m'a rien demandé à moi. Hein. Du moment que mon père avait dit oui, bon, c'est... Et mon père a dit, bon, oui, quand il ira mieux, je le ramènerai. Et c'était en signe de chez moi aussi, un guérisseur ne prend jamais d'argent. C'est le malade guéri qui vient remercier, soit avec un poulet, soit avec un mouton, ça dépend de quoi. Bon, donc, il n'y avait pas ce monnayage de la santé. Donc, mon père a accepté, il dit, bon, à sa guérison complète, je le ramène. C'était la façon de payer la prêtresse. Et moi, devenant adepte du culte des serpents, eh bien, j'étais la monnaie de ma guérison. Eh bien, j'avais accepté tout ça.
Oui, mais la vie va en décider autrement.
Oui.
Si inconsciemment, vous n'aviez pas envie de ce destin-là.
Oui, mais c'est là aussi qu'il faut se demander si dans la vie, il n'y a pas... si on n'est pas finalement le jouet de notre destin. Et qu'on ne décide vraiment pas de ce qu'on sera. Bon, mais après, quand on trouve sa voie, eh bien là, on peut persister, on peut faire des efforts pour se perfectionner.
Vous, c'est un livre qui va changer votre destin.
Et quel livre ? Je vais, comme d'habitude, à Lomé, il y avait à Lomé qu'une petite librairie qui était la librairie évangélique. Qu'est-ce qu'on trouvait dans cette librairie ? C'était des livres de cantiques, des livres sur la foi, des livres sur les saints, les apôtres, etc. Et il y avait aussi, de temps en temps, des livres qui n'avaient rien à voir dans cette librairie. Et c'est là où j'achetais des livres qui n'étaient même pas lus dans ma classe à l'école. Et je vois un livre le titre ne me disait rien du tout, intitulé « Les Esquimaux du Groenland à l'Alaska ». Bon, je le prends. Et sur la couverture, la photo d'un chasseur, mais souriant. Seulement, il était habillé en peau de bête.
On est en 1957 à peu près.
C'est ça. Ouais. Et puis, il avait un harpon, ce que dans ma culture est une lance. Et je retourne, je lis, je ne comprenais rien. L'Eskimo, Groenland, Alaska, l'Arctique, non. Mais la photo me plaisait et j'achète le livre.
Avec l'argent des paillassons vendus.
Absolument, absolument. Grâce, grâce à tout le monde. Grâce aux serpents, grâce aux cocotiers, grâce aux blancs, grâce à cette librairie-là. Et je vais sur la plage, Lomé est au bord de la mer, hein. Je vais sur la plage et... Je sais pas, au bout de très peu de temps, eh bien, j'ai fini ce livre. Mais le Groenland. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est passé un seul jour de ma vie sans que je n'aie pensé au Groenland. Quand j'ai fini ce livre, eh ben, j'entendais des sons, comme si j'entendais une voix. Et la voix qui résonnait, c'était Groenland, Groenland, Groenland. Je dis, mais il fait froid. Bon, il fait froid, mais bon, moi, il fait froid.
Vous viviez sous les tropiques,
Il fait froid, je ne sais pas ce que ça veut dire.
La neige, vous ne savez pas?
Non, moins 40. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Moins 40, j'en sais rien, moi. Mais si froid qu'il n'y avait pas de serpent. Donc, ça m'évitait de retourner. Si le Groenland était au Togo, eh ben, c'est là où j'irais, pour ne pas retourner dans la forêt sacrée. Alors, je rentre avec mon livre. Et je n'arrêtais pas de lire et puis de voir des photos de petits Esquimaux mangeant du poisson cru. Comment ils n'ont pas de feu? Pourquoi l'enfant mange cru? Etc. Le lendemain, je retourne à la librairie évangélique pour regarder une carte du monde. Et c'est là où j'ai vu que le Groenland, eh ben, c'était pas la porte à côté.
Oui.
C'est même plus loin que l'Europe. Moi qui n'avais même pas de quoi aller en Europe, et qui ne pouvais même pas, de toute façon mon père ne m'aurait jamais laissé aller en Europe, c'est encore plus loin, ou l'Amérique, c'est encore plus loin. Moi je dis, mais non, c'est pas possible. Mais c'est là mon paradis. Et ben voilà, et j'ai fait une fugue.
Et je vous propose de retrouver Tété Michel Pomassy dimanche prochain pour vivre la suite de ce voyage initiatique et unique au monde. Je vous rappelle le titre du récit de cet écrivain voyageur, L'Africain du Groenland, qui vient d'être réédité aux éditions Artaud. Je vous rappelle également que vous pouvez podcaster, partager avec vos amis cette émission en la réécoutant sur notre site franceinter.fr, partir avec Marie-Pierre Planchon. Je vous souhaite une très belle semaine et comme le disent les Grecs, Kalinikta, que votre nuit soit douce et sucrée.